Bien, écoutez, on relaxe. Êtes-vous d'accord de relaxer? Là, vous allez écouter quelque chose, là. Puis on relaxe, OK? Mettez du bon son.
Avantage. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, quand tout secret me serait révélé, j'atteindrai le savoir, le génie. Quand par pitié, je donnerai mes biens. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas
arrêtez là. Bonjour. C'est fini, là? À vous laisser pénétrer les paroles tranquillement. Je l'ai écouté à peu près 20 fois cette semaine. Je suis rempli de ça, ça. Pas rempli d'amour, parce que c'est difficile. Puis je me suis dit, vu Michel que tu parles de l'amour, Tout le monde entend parler de ça. Êtes-vous capable de trouver une chanson radio qui n'a pas de l'amour dedans? Quelque chose comme ça. Pensez à ça. Ouais, matin un peu. Je ne veux pas parler de l'amour un matin. On va parler d'autre chose. Le son, les amis.
Infamé.
Laissez le son sur ça, là, s'il vous plaît. Merci.
Et une autre statistique vraiment alarmante. Une femme est tuée tous les 2 jours et demi au Canada. C'est ce que révèle une étude publiée aujourd'hui par l'Observatoire canadien du fémicide. Alors, Sébastien, les chercheurs veulent donner un portrait plus juste là, de la violence faite aux femmes. Hein?
Oui, c'est ça la mission de l'Observatoire, lancée en 2017 à la demande de l'ONU, qui veut mieux documenter le fémicide dans le monde. Alors, c'est le premier rapport de cet observatoire. Une femme... tous les 2 jours et demi, vraiment, ça a de quoi frapper l'imaginaire. Voici d'ailleurs le portrait des victimes recensées par l'Observatoire en 2018. On compte 148 femmes assassinées durant l'année au pays. Et bon, au-delà de la fréquence, les chercheurs font un certain nombre de constats assez alarmants. Par exemple, ils s'intéressent à la relation entre les femmes et le présumé tueur. Oui. Et ce qu'ils découvrent, c'est que dans 53 % des cas, elles sont tuées par leur partenaire, donc le conjoint ou le petit ami. Et ça, c'est un constat très différent chez les hommes assassinés. Chez les hommes assassinés, bien, on constate qu'ils sont tués dans moins de 5 % des cas par leur partenaire. Alors, c'est un écart qui témoigne de la grande vulnérabilité des femmes qui sont en relation avec un homme violent.
Bon, fait que, comment se fait ça qu'on est rendu là? Ceux qui se demandaient pourquoi un titre de même, là? Comment se fait ça que l'humanité est rendue là? Il est arrivé quelque chose. Pourtant, on a des Valentins, on a des cœurs. Il y a le petit Anan là, qui est là, là, qui fait tomber en amour le monde. C'est Cupidon, tu sais. Je ne passerai pas trop de temps à vous donner l'historique de Cupidon. Et si vous lisez l'âne d'or, vous allez voir que c'est un petit bonhomme bien, bien intéressant qui fait tomber en amour le monde qui n'est pas supposé de tomber en amour avec. Mais comment se fait ça qu'on est rendu là? Bien, écoutez, rapidement, là, ça part du 8e siècle avant Jésus-Christ, ça, cette affaire de Saint-Valentin, là. Mais ça ne s'appelait pas de même. C'était entre le 13 et le 15 février. Puis il y a des époques où c'était un mois. C'était du 15 février au 15 mars. Et là, ça a commencé par rapport à un dieu, des loups, etc., etc. Je vais vous sauver ça. À ça, il est arrivé 3 Saint-Valentin dans l'histoire avec Constantin. Et il y en a un, Aldan, en 226 jusqu'à 269. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mariait le monde en cachette. Puis Claude II n'a pas aimé ça. Il a coupé la tête. Parce que lui, il levait une armée, puis il a dit en lui-même, les hommes se marient, puis ils restent couchés avec leurs femmes, puis ils ne s'enrôlent plus dans l'armée. Alors, il a défendu le mariage. Mais Saint-Valentin, lui, il a dit « Non, non, moi, je veux les marier. » Il est marié à cachette, puis il s'est fait déclarer. Il a perdu la tête. Là, on arrive en 2018. Je vois, je fais vite, là, parce qu'il y avait des cossins là-dedans. Vous savez, le premier Saint-Valentin, là, c'est le 11 février 1415 qui est envoyé. Je n'étais pas là, mais j'ai entendu parler. C'est le duc d'Orléans qui a envoyé son premier Valentin de l'histoire à Marie de Clèves. Et depuis ce temps-là, on s'envoie d'un paquet de Valentin. Je me rappelle l'école, j'avais 8-9 ans, il y avait un petit baveux, il récoltait tous les Valentins, ce gars-là. Les autres en avaient 1, 2, lui, il en avait 12, 13. Je me souviens toujours, ça m'a traumatisé, ce gars-là, il pognait avec les petites filles, là. Tout le monde voulait être le petit Valentin. Puis là, mais comment se fait ça? On parle tellement d'amour, on s'envoie tellement de Valentin. Comment se fait ça qu'autant de femmes sont tuées par leurs conjoints? Et vice-versa à 5 %. À quelque part, il y a de quoi qui cloche. On se dit qu'on s'aime, puis on dit qu'on s'aime. Pour ça, je ne veux pas parler de l'amour, parce que ça nous tombe sur le dos comme sur l'eau sur le dos d'un canard. Donc, j'ai choisi d'autres choses. Ah, il y a aussi des spéciaux de Saint-Valentin, là, 10 %. Je voulais parler de ça. Je vais vous parler de quelque chose qui est encore... Et là, vous allez me pardonner à 11h et toi, je vais aller direct, là, puis je ne te conterai pas trop d'histoire. Je vais aller direct avec le matériel, OK? Êtes-vous d'accord? Écoutez bien, là, le matériel. Parce que moi, là, je veux parler de l'intimité. Parce que l'intimité, là, c'est supposé d'apporter un bien-être. Mais pourtant, dans vie, lorsqu'on rencontre des couples, même l'intimité entre deux amis proches, là, avoir entendu le cercle d'intimité d'un tel, avoir entendu ça des fois? Moi, je suis plus intime avec telle personne qu'avec telle personne. Il me semble qu'il m'écoute mieux que l'autre, puis il me comprend plus que l'autre. Notre cercle d'intimité va varier, marié ou pas. On se fait des intimes. Et l'intime est un élément de l'amour qui est là, qui n'est pas le seul. Mais si vous voulez détruire l'amour, détruisez l'intimité. C'est pour ça que vous attendez des gens qui se font trahir, parce que leur intimité a été trahie. Ils se font juger. Ils se font mettre de côté par un ou par l'autre. Alors, j'ai 12 étapes. Je vais aller vite dans ça, là. Il y a 12 étapes pour détruire l'intimité quand on a une relation avec quelqu'un, que ce soit marié ou un ami intime, peu importe. Il y en a qui fitent mieux pour le couple, il y a d'autres qui fitent pour ceux qui ne sont pas mariés. Mais c'est rien qu'une question de cet élément d'intimité. Quand Dieu est venu sur cette terre, monté sur la croix vers l'entrée de notre ère, il est venu nous rappeler qu'est-ce que c'était l'amour intime. Pour développer une relation intime avec Dieu et non pas faire une religion tricotée par les hommes. Et la destruction de l'humanité, il y en a 12 étapes. Je vais aller assez vite quand même. Vous allez voir, si vous êtes dans une de ces étapes, vous allez vous reconnaître. Puis ne levez pas la main pour dire « Ah, je me reconnais à la 9e ». Mais ça va vous aider à vous fixer où vous êtes rendu. Première chose, de grandes attentes non réalisées. C'est la première chose qui arrive. Une attente envers son conjoint, une attente envers un ami intime. Ça détruit l'intimité. Deuxièmement, peu d'affection, sauf, là je ne parle pas à ceux qui ne sont pas mariés, là, sauf dans l'acte sexuel lui-même. Là, je parle à ceux qui sont mariés. Peu d'affection, pas de résultat, pas d'orgasme, pas de vraie vie sexuelle. L'insouciance, souvent involontaire, avec le temps, le mariage se détruit peu à peu. Insouciant de ce que l'autre peut vivre émotionnellement ou ses expériences de vie. Insouciant. Ce qui est important, c'est moi dans la relation. Donc, tout ce qui est là pour me servir. Tout ce qui est là, il est là pour me faire du bien. Tout ce qui est là, il est là pour dire comme moi. L'insouciance de l'autre, peu importe l'homme ou la femme, dans les relations, l'insouciance de l'inquiétude de l'autre, l'insouciance de la peine de l'autre, l'insouciance de l'épreuve de l'autre, détruit l'intimité. Il y a aussi la frustration. Vos désirs de l'affection, mais vous trouvez très peu de satisfaction. On vient frustré. On veut de l'intimité. Vous savez, dans les chats, savez-vous que les femmes vont chercher l'intimité dans les chats parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir avec leur conjoint? C'est documenté, ça. Et ça favorise l'ouverture, la frustration. Rapidement, l'acte sexuel, là je parle à ceux qui sont mariés, vous laisse vide et non gratifié. C'est quelque chose qui est plate, extra plate. Ça tue l'intimité. Les pensées voyageants, hein, qui voient, qui voyagent. Vous cherchez l'intimité, c'est-à-dire l'amour, là où vous ne devez pas la chercher. Ah! Tu sais, il y a une chanson là-dedans, « Looking for love in all the wrong places ». Chercher Dieu dans toutes, pas Dieu, mais chercher l'amour dans toutes les mauvaises places. Ça détruit l'intimité d'une relation. Émotionnellement insensible, vous êtes en train de devenir de plus en plus insensible devant votre conjoint où il n'y a plus de sensibilité pour le conjoint. Ça se répète un peu de l'autre, mais c'est encore plus profond. Il n'y en a plus pantoute, où ce que tu vis ta vie, puis je vis la mienne. Et ça mène ça, en fin de compte, à la colère. Vous êtes facilement exaspéré et même coléreux face à votre conjoint. Et 9, votre conjoint n'est jamais complètement avec vous. Il est comme un colocataire. Et là, c'est vraiment, on vit chacun notre affaire, et vous dites, je serais mieux de ne pas être, mais je serais mieux d'avoir resté célibataire, ou je serais mieux de ne pas être marié. Levez pas la main, là. Je suis convaincu qu'il y a une gang ici qui a pensé ça, à un moment donné dans sa vie de mariage. Alors, j'ai-tu bien fait de me marier avec telle? J'ai-tu bien fait de même me marier tout court? Ça tue l'intimité. Comportement compulsif, ça c'est la dixième étape, c'est la caractérisation par la répétition persistante d'une action, c'est-à-dire acheter des souliers, des sacs, acheter des petites bebelles de mécano, la nourriture, etc. Tu peux mettre n'importe quoi là. Ça remplace, ça devient ton soutien émotionnel. On peut mettre la drogue, la boisson, on peut mettre toutes ces choses-là. C'est compulsif, ça vient remplacer l'intimité. La pornographie, c'est une question d'intimité avec ce que tu vois. Et c'est quelque chose d'égoïste et d'intime. Parce que tu n'as pas l'intimité avec ton épouse, tu vas aller chercher dans ces choses-là. 11. Construction d'une carapace. Et ça, c'est vraiment... c'est conscient et non conscient, ça. C'est que la personne ne me fera... Personne ne me fera, ne me fera encore du mal. Parce que ça fait mal. Ça fait perdre l'intimité. Perdre l'intimité avec quelqu'un. Ça fait extrêmement mal. Et là, on se fait une carapace, puis on a de la misère de s'ouvrir. On va voir tout à l'heure. Après ça, la douzième étape, c'est la fermeture totale à l'autre. C'est l'isolement. C'est vraiment le désert. Bon, à cette heure que j'ai parlé de la destruction de l'intimité, c'est le fun, ça. On s'en va de même. Ça fait dur, ça, c'est le côté dur, ça. Puis il y a bien des étapes où on ne s'identifie pas. Regardez bien, l'intimité dans une relation peut donc se mesurer par l'accessibilité de l'autre au mode intérieur de l'autre. Si vous avez des grands amis, vous allez être plus intime avec votre grand ami que vous allez être intime avec quelqu'un que vous venez de rencontrer au Morgan en train de prendre un café. Alors, c'est l'accessible, être accessible à l'autre. Et c'est ça l'intimité. C'est se donner le droit à l'autre de venir vers toi et toi d'aller vers l'autre. Et ensemble, construire une relation intime. Et vient la confiance et vient toutes les autres choses. Ce qui crée véritablement l'intimité. Et là, j'ai une vieille citation d'un monsieur, celui qui a fait le Nouveau Testament annoté. L'amour en action, en fin de compte, si on y pense bien, là, on peut mettre du respect, etc., etc. Mais regardez bien cette phrase, c'est une citation. Une affection, un amour, une affection rationnelle et volontaire qui a pour motif la vérité et la sainteté qui s'exerce par un libre choix. L'intimité est tricotée dans cette phrase-là, où ce que lorsque on est en train de construire de l'intimité avec Dieu ou avec quelqu'un, ou avec notre épouse, nous sommes en train d'une manière émotionnelle, rationnelle, pas une émotion fou où ce qu'on jette tous les deux en bas du pont. C'est une affection rationnelle et volontaire. Vous avez entendu l'expression qui dit « on ne peut pas acheter l'amour ». Hein? On ne peut pas acheter l'amour. Non, on ne peut pas. Qui a pour motif, et c'est là que vient la dimension chrétienne dans l'amour, que le monde ne saisit pas, d'après mon observation, qui a pour motif la vérité de Dieu, la vérité et la sainteté, c'est-à-dire mise à part pour Dieu, qui s'exerce par un choix de dire « je ne cache plus rien à Dieu ». Je vais avoir une relation intime avec Dieu. Ça, c'est vertical. Horizontal, je vais avoir des relations avec mes frères et mes sœurs. Je vais avoir des relations avec ceux de ma famille. Je vais avoir des relations, puis mes relations vont différer, dépendant avec qui je vais être. Il y en a, je vais être plus intime avec eux autres. Je vais m'ouvrir un peu plus avec certaines personnes qu'avec d'autres. Mais pourquoi qu'on se trouve plus avec certaines, puis on ne se trouve pas avec d'autres? Pourquoi c'est comme ça? C'est à cause de l'intimité. Parce que l'intimité, en fin de compte, fait naître l'amour, fait naître Le besoin de l'autre fait naître le respect de l'autre pour l'autre. Donc, la manifestation d'intimité, l'intimité est l'élément le plus complexe et le plus fascinant de l'amour véritable. C'est qu'on est vrai. L'intimité, c'est d'être lié à l'autre par un contrat profond, émotionnel, profond et rationnel. C'est un lien émotionnel et rationnel. L'intimité, c'est quelque chose qui se maintient, un sentiment de proximité et de complicité avec l'autre, caractérisé par l'intimité, la tendresse et l'affection. Réaliser que quand ça ne va pas bien dans une relation, on ne se sent plus intime, on ne se sent plus porté à être complice avec, on ne se sent plus porté à être tendre, on n'est plus porté à ces choses-là. Parce que l'intimité est brisée, l'intimité est sabotée. Et là, on voit des gens. Vous savez, les femmes qui ont été tuées par leur conjoint, là. Si vous auriez posé la question à ces gens-là lorsqu'ils ont tricoté leur relation, sans Dieu même, là, ils auraient dit, « Hey, là, c'est l'homme de ma vie. Je me sens bien avec lui. Je parle avec lui jusqu'à 2h du matin au téléphone. Il me comprend quand j'ai... » Là, il va en mettre des affaires. Puis avec le temps, ils perdent cette intimité et ça devient des colocataires, puis ça devient des ennemis. Un sentiment de proximité qui est la manifestation de l'intimité. On aime ça d'être ensemble. Quelques facteurs importants qui construisent, c'est l'empathie, être attentif aux sentiments de l'autre et les respecter. L'ouverture, c'est quoi l'ouverture? Si vous n'êtes pas ouvert, alors vous ne vous impliquez pas dans la relation, ce qui exclut l'intimité. Combien de personnes n'osent pas dire ce qu'ils ont à dire à l'autre? Ils ont peur de la réaction, ils ont peur de ce qu'ils vont dire après. Il faut absolument, pour construire l'intimité, il faut absolument, l'empathie puis l'ouverture. Vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez. Vous êtes un frère dans le Seigneur. Vous parlez avec de votre char. Vous parlez avec de votre sport favori. Vous parlez avec de toutes sortes d'affaires. À un moment donné, là, dans la conversation, tu sais, puis comment ça va avec ta femme? Bien là, c'est personnel, ça, c'est intime. Avez-vous déjà entendu ça? Oui, j'ai entendu souvent ça. Ils ont raison. C'est intime. Mais pour avoir une intimité qui est réelle, qui est vraiment attachée à l'amour selon Dieu, c'est absolument, on doit tendre vers l'autre, on doit être ouvert. Et il y a un phénomène qui se fait. Vous avez des amis entre conjoints, conjointes, c'est la même chose. Plus qu'un se rouvre, plus que l'autre se rouvre. Vous avez remarqué ça? Ça commence à parler. Et quand le bon vouloir est là, vous donnez le passeport pour être capable de parler à l'autre, vous pouvez dire les choses qu'il y a à dire. Et là, on peut se parler profondément. Mais il y a des dangers à ça. On va le voir plus tard. La vulnérabilité est un paradoxe. C'est ça, là, les dangers. Savez-vous pourquoi qu'on a de la misère à entretenir l'intimité, à vivre l'intimité avec les gens, que ce soit notre époux, que ce soit un ami intime, une parenté? C'est parce qu'on a peur. On a peur. C'est épeurant, l'intimité, là. La preuve, c'est qu'il y a quelque chose dans votre tête. Un matin, là, vous dites en vous-même, si tout le monde serait ça, ça ferait dur dans ma vie, un petit peu près. Je ne viendrai plus ici. Donald avait dit une fois, je me rappelle, Donald, il dit, s'il faudrait tous nos péchés de la semaine seraient projetés sur l'écran, je pense qu'on ne sera pas ici dimanche prochain. Moi, je ne serai pas ici, en tout cas. La peur d'être rejeté et blessé, c'est ça, la peur qu'on doit combattre. On prend un risque. Ma femme me connaît tellement que par deux phrases et demie ou trois, elle peut me détruire. La peur de perdre son individualité ou d'être englouti par l'autre. Ou ce que là, tu es vulnérable. La peur de voir ses faiblesses exposées. Hein, comme je disais tout à l'heure. La peur de voir ses faiblesses exposées. la peur de ses propres impulsions destructrices si on déchaîne ses sentiments. Dire vraiment nos luttes intérieures pour les combattre. Moi, j'admire les hommes qui sont capables, le lundi soir, de venir puis de travailler à leur dépendance, d'exposer leurs faiblesses. Ils sont capables de le dire, je suis pogné avec ça, j'ai besoin d'aide. Ils travaillent là-dessus. C'est des gens qui savent qu'en exposant leurs faiblesses, c'est paradoxal. Ça aide pour les aider, puis en même temps, c'est risqué. C'est pour ça qu'on demande la confidentialité dans ces choses-là. Hein? La peur que l'information divulguée soit utilisée ultérieurement comme munition. Et là, ceux qui aident les autres dans les dépendances, ça sert bien. Hein? Prends pas ça comme des munitions pour détruire. La confidentialité que ces choses-là. Alors, l'intimité, la vulnérabilité dans l'intimité, c'est vraiment épeurant. La peur de perdre le contrôle, de perdre ton image de chrétien. Ils vont me voir comme un crétin. Pas un chrétien. Non, mais tu sais, la peur de l'image. Après ça, on voit dans cela, dans l'intimité, la confiance. Dans l'intimité, il doit y avoir un haut degré d'ouverture et d'honnêteté des deux en relation. Et ça, ça s'applique à des bons amis, à la famille. C'est à quelque part, c'est quelque chose qui est là, ouverture et honnêteté. Un certain degré. Puis, on doit l'admettre, il y a des personnes qu'on connaît, qu'on voit, et puis on peut aller jusqu'à un certain point avec eux autres, puis aller plus que ça, c'est dangereux. Hein? Pas vrai, ça? Voyons donc, hein? Ma mère, elle disait souvent, une telle personne, c'est comme un nouvelliste. Quand elle parlait au nouvelliste, elle ne disait pas tous ses tourments, puis toutes ses luttes, puis toutes ses peines, puis toutes ses faillites. Comptez sur l'autre, que l'autre ne se comporte pas d'une façon irresponsable ou égoïste dans les moments importants. La confiance est importante pour l'intimité. Avoir confiance en quelqu'un signifie ne pas en avoir peur. Ça veut dire que je n'ai pas confiance, j'ai peur de parler à ce gars-là. J'ai peur que si je vais y parler, il va partir en peur et il va dire ça à toute l'Assemblée. Jamais tu vas aller chercher de l'aide à quelqu'un comme ça. Même je vous dirais qu'il y a du monde qui vient chercher de l'aide, puis Michel pourrait le confirmer, qui viennent de d'autres assemblées pour aller voir quelqu'un d'une assemblée ici. Hein, Michel Joannette? Vrai? Hein? Pourquoi? Puis ils ont peur. Puis c'est épeurant. Vous êtes peut-être pogné avec quelque chose là, ici ce matin. Là. Vous ne savez pas quoi faire avec ça, vous le savez, mais vous avez peur d'agir. C'est la peur qui tue la confiance. La confiance, sans un degré quelconque de confiance, l'intimité est impossible. Il faut qu'il y ait la confiance. Quand il y a des adultères dans les couples, d'infidélité dans les couples, est-ce qu'on peut s'entendre qu'il y a un niveau de confiance qui vient d'être saboté, là? J'ai parlé à des femmes qui ont pardonné à leur mari, j'ai parlé à des femmes qui ont passé à d'autres choses, qui ont continué. Mais quand on va plus profond avec eux autres, qu'on parle, comment est le lien de confiance, comment est l'intimité, il y a un petit quelque chose. C'est comme planter un clou d'un morceau de bois. Tu arraches le clou, il y a le trou et tout là. Vous avez remarqué? Quand tu plantes des clous d'un morceau de bois, là, tu rentres le clou, là, puis tu dis, hey, ce clou-là, il faut qu'on l'enlève. Le gars fait tout ce qu'il doit faire, ou la femme fait tout ce qu'elle doit faire. Elle se repent, elle accepte le Seigneur, qu'il vienne le maître de sa vie. Elle enlève le péché, mais il y a un trou. Et ça, il faut aller profond pour ça. Et là, j'arrive à l'amour et l'amitié. La différence entre l'amitié et l'amour est que ce dernier inclut la passion. Et là, c'est pas versus un versus l'autre. Là. Moi, je me plais à dire à quelqu'un qui me dit, « Michel, tu dois avoir gros des amis à l'Assemblée du Cap. Ça fait longtemps que tu es là, tu es comme des meubles, puis tata, tata. » Mais, moi, vous dire, L'autre question, c'est qui ton meilleur ami? Là, je ne dis pas, c'est tout le monde sauf Daniel. Donc, je ne dis pas ça, là, Daniel, je ne dis pas ça. Non, je dis, ma meilleure amie, c'est ma femme. J'ai toujours entretenu ça. Ma meilleure amie, c'est ma femme. Puis je comprends qu'il y en a qui ont besoin d'avoir des amis de femme pour parler. Là. Je ne dis pas de ne pas en avoir quand je parle de même, je parle de moi, là. Voyez-vous? Moi, j'ai pas vraiment besoin d'un ami de gars pour me confier de tous mes problèmes, parce que ma femme les ramasse toutes. C'est une affaire de moins. Mais si on a besoin d'une tierce personne, tant mieux. Alors, un couple s'aime mutuellement, alors ce sont également des amis très, très proches. Puis entretenir cette amitié-là, c'est avec le respect, l'intimité, la proximité, la tendresse. Vous savez, souvent on est en mode solution, nous autres les hommes, puis on pense qu'on va tout régler les problèmes de nos femmes qui arrivent en pleurant. Mais ils ne veulent pas que vous régliez le problème, ils veulent se faire prendre dans les bras, puis se faire dire que vous les aimez, puis vous les comprenez. Alors, c'est l'amitié, puis il y a l'engagement aussi, je vais terminer avec l'engagement. La décision d'aimer l'autre, à long terme, est un engagement de maintenir cet amour. Et l'engagement, notre compagne, l'intimité et l'engagement sans la passion. Une compagne. Vous savez, la passion, on peut en parler longtemps de ça, mais tu sais, on est passionné pour le sport, on est passionné pour les quilles, on est passionné pour notre femme. Mais à quelque part, être compagnon fidèle, être compagnon de quelqu'un, c'est profond. Maintenant, je vais commencer ma prédication. Ça, c'est l'introduction. Parce que vous l'avez entendu, ma prédication, c'est 10 points qu'il y a dans 1 Corinthiens 13. Puis je vais rien que les mentionner pour que ça rentre dans notre cœur. Je ne commenterai pas, je fais exprès. Oui? Écoutez comme il faut, il l'a chanté. L'amour est patient. Alors, posez-vous la prochaine question. Après-midi avec votre épouse. Chérie, suis-je patient? Dois-je améliorer ma patience? Est-ce que je dois travailler plus là-dessus que travailler sur les gestes de bonté que je fais envers toi? Parce que l'amour est plein de bonté. Fini l'égoïsme seulement. On est égoïste encore, mais on en partage. L'amour n'est pas envieuse. De toutes les façons possibles qu'on peut imaginer l'envie, là, que ce soit d'un couple ou d'une relation avec quelqu'un, n'est pas envieuse. C'est le meilleur de mes chums parce qu'il y a une corvette. C'est le meilleur de mes chums parce qu'il y a un skidoo. C'est le meilleur de mes chums parce qu'il y a un bateau. Non, non. L'amour n'est pas envieuse. Puis Dieu dit, l'amour ne se vante point. Tu n'as pas de bêté bretelle devant l'autre quand tu aimes quelqu'un. Tu es qui tu es. Point final. Tu es réel, tu es vrai. L'amour ne s'enflamme pas d'orgueil. Tu ne te prends pas pour le nombril du monde. Tu es qui tu es. Dans notre relation avec Dieu, c'est comme cela. On a une relation verticale avec Dieu. On est qui on est. On n'est pas en train de magasiner avec Dieu. On accepte Dieu tel qu'il est et on s'accepte tel qu'on est. Sixième, l'amour ne fait rien de malhonnête envers notre conjoint, envers notre ami. Tu sais, des spéciaux malhonnêtes, là. En tout cas, j'avais des affaires là-dessus, mais on va arrêter là. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Et ça, c'est un gros, celle-là. Moi, j'y pense souvent, celle-là. C'est-tu vraiment nécessaire? Norman Buchanan, je me souviens toujours, il y avait une phrase qu'il disait tout le temps, « Est-ce vraiment nécessaire? » Puis, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. À quelque part, l'égoïsme de l'homme, il veut tellement avoir ses bébelles, que ce soit de l'ordinateur, de la TV, de 65 pouces, ou n'importe quoi, là. Son char, son ci, son ça. Que sa vie tourne alentour de ses intérêts à lui. Mais l'amour, selon Dieu, va alentour de l'intérêt de l'autre. Car Dieu a tant aimé le monde que de donner son Fils. L'intérêt de Dieu, c'était nous, parce qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'intérêt de l'amour de Dieu, c'était nous. L'objet de l'amour de Dieu, l'objet de la grâce de Dieu. Et notre relation avec les gens alentour de nous, c'est la même chose. On cherche l'intérêt de l'autre au lieu de chercher notre propre intérêt. Au lieu de s'imaginer des scénarios, comment je vais retirer quelque chose de cette relation, on se casse la tête en disant, qu'est-ce que je peux faire pour donner ce qui intéresse à l'autre? C'est comme aller au restaurant. Oui, on s'astine, moi et Diane, des fois. Hey, on va aller à la pizzeria 67. Non, ça commence pas de même. Ça commence. Où qu'on va aller? Où, quel restaurant qu'on va aller? Ben, n'importe où. Ben, ouais, c'est à ton tour à choisir. Non, c'est pas à mon tour. N'importe où. Ça te tente-tu de manger quoi? Non, du chinois? Non, non, pas du chinois. N'importe quoi. Si tu veux du chinois, on ira. Mais c'est une conversation comme ça, là. À fin de compte, on parle des fois 5 minutes de temps, puis là, on arrive dans un même restaurant. Parce qu'on veut que l'autre soit invité où ce qu'elle veut vraiment aller. Hein? OK, je vois vite, là. Excusez. L'amour ne s'hérite pas. Là, laissez pénétrer ça, là. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Toujours frustré, toujours irrité. Tu fais pas ça comme il faut. Maman, elle faisait ça de même. Pas première année, là. Ces commentaires-là, c'est rendu. C'est en 5e, 7e année, ça. C'est comme quand tu pognes la grippe. Hein? La première année qu'une épouse ou un époux pogne la grippe, pauvre chérie, il y a la grippe, m'a allé chercher des médicaments. La 5e année, comment tu fais ça? Tu fais-tu exprès pour pogner la grippe? Ça coûte cher, les médicaments? Mais ça change en s'en allant. Va remarquer. Alors, on s'irrite. On se permet de s'irriter. Laissez-moi vous dire quelque chose. On dit à nos proches des affaires qu'on ne dirait pas à un étranger. Pensez à ça, là. On se permet de se déverser sur nos proches, sur nos intimes, mais un pur étranger, hey, on ne ferait jamais ça. Mais non. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ça, c'est un terme comptable dans l'original. C'est-à-dire qu'on n'est pas assis chez nous en train de calculer tous les péchés que l'autre fait, puis toutes les choses irritantes qu'elle fait. Puis là, on a notre liste d'épicerie, puis on dit, garde, aujourd'hui, là, tu peux dire que tu n'as pas atteint vraiment ton but là, de m'aimer vraiment, là, parce que tu as tout fait ça qui m'a irrité. Bien, ça dit que l'amour ne fait même pas ça. L'amour couvre une multitude de péchés, de fautes. Et la dernière, il y en avait 10. La dernière, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. À quelque part, c'est de l'injustice lorsque on méprise l'autre, on profite de l'autre, on manipule l'autre sous prétexte qu'on les aime. Mais dans le fond, c'est nous autres qui les aiment. Là, j'ai un poème pour ma femme, puis elle n'est pas ici. Fait que vous allez être... c'est parce que Diane a fait de l'insomnie, puis elle ne pouvait pas venir un matin. Mais c'est puissant, l'amour, hein? Même dans la parole, c'est marqué... Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Si c'est l'amour selon Dieu. Parce que l'amour selon l'homme, 55% des cas dans l'intimité, il tue la femme. Ça ne marche pas l'amour selon le monde. C'est l'amour selon Dieu. Un amour si puissant qu'il me donne des ailes, Diane. Elle n'est pas là, Diane, elle était supposée être là. Un amour si puissant qu'il me retient ici, auprès de toi, Diane. Un amour si puissant qu'il me rend libre. Libre. Hey, je suis libre. Je n'ai pas besoin de courir après une femme pour en avoir une. J'en ai une déjà. Un amour si puissant qu'il peut faire et défaire. Oui, c'est vrai. L'amour, là, ça fait puis ça défait. Ça défait tes mauvaises habitudes, puis ça te fait d'autres habitudes, puis ça change tout le temps, les forces de vie changent tout le temps. Un amour si puissant, l'amour que je ressens pour toi, Diane. Pour toi, Diane, ma compagne. Je voulais dire ça à Diane comme un petit Valentin matin. Vous avez été patient. Il y a beaucoup de matériel là-dedans, mais il y a beaucoup de matériel, mais l'important, c'est de savoir que l'amour de qualité, donc Dieu nous a aimés. Vous savez, les disciples, ils disent à Jésus, « Regarde le temple. Comment c'est beau, ce temple-là. Vois quelle sorte de construction que c'est. Ça a pas de, c'est vraiment beau. » Puis dans 1 Jean 3, Jean dit, « Voyez quel amour le Père nous a aimés. » Puis il prend le même verbe. Un amour extraterrestre, un amour qui n'est pas humain dans le fond, parce que 1 Corinthiens 13 décrit un amour surnaturel. Puis il est placé entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Pour ceux qui savent ce qu'il y a là-dedans, vous savez pourquoi il l'a mis dans le milieu. Puis, laissez-moi vous dire quelque chose. On passe notre vie à être formé par l'amour, avec l'intimité. Et la maintenir. On va prier, on va arrêter là. Il est quelle heure, là? Je ne vois pas l'heure d'ici, c'est peut-être pas d'excuses, hein? On va prier, on va prier. OK. T'as quelque chose à faire, Adam? OK. Seigneur, merci pour le temps ensemble, merci pour ta parole, merci pour 1 Corinthiens 13, qui est le modèle par excellence de l'amour divin. Et aide-nous, chacun de nous, dans nos vies, de développer une intimité selon toi, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Amen.